Je vous invite ce matin à trouver avec moi un passage dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Alors, une journée où au Luxembourg il y a des élections, c'est en quelque sorte le programme, la manifeste du royaume de Dieu, où le Seigneur nous révèle à quoi ressemble ou doit ressembler la vie dans son royaume, son programme de vie pour nous si nous sommes ses disciples. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, un des aspects de la vie au Luxembourg qui rend parfois les choses un petit peu compliquées, c'est que lorsqu'on aborde quelqu'un, on ne sait jamais vraiment quelle langue on doit employer et quelle langue va parler la personne en face de nous. Résultat, on ne sait jamais non plus quelle référence culturelle on peut employer, parce qu'on ne sait pas dans quelle culture baigne la personne, quelles nouvelles il lise, quelle culture il regarde, quelles infos il regarde. Parfois, ce sont des infos luxembourgeoises, parfois les infos allemandes, parfois les infos belges, parfois les infos françaises. Mais je pense que même si vous n'avez pas suivi les infos françaises et vous avez suivi les infos d'un autre pays, vous avez sans doute vu relayer dans les médias des différents pays cette attaque horrible qui avait eu lieu dans un parc en France cette semaine contre des enfants. Alors déjà, l'événement est assez terrible en soi lorsque quelqu'un s'en prenne à des petits-enfants à coups de couteau dans un parc en train de jouer. Mais je pense pour nous qui sommes chrétiens, ce qui a rendu cet événement encore pire, c'était d'apprendre que cette personne, avant de s'attaquer aux enfants, a lancé le cri qu'il faisait ceci au nom de Jésus-Christ, avant de passer à l'acte. Alors, déjà, disons en passant, cela devrait nous donner un certain recul pour juger les événements lorsque les attaquants crient qu'ils font cela au nom d'Allah, puisqu'on peut voir que ce n'est pas toujours un reflet fidèle de tous ceux qui appartiennent à telle ou telle religion. Parce que donc, ce matin, je n'ai pas besoin de vous dire que de tels actes, de telles attitudes ne correspondent pas du tout à la foi chrétienne, ni à l'exemple de Jésus, ni à l'enseignement de Jésus qui nous a révélé tout le contraire. Justement, nous voyons dans ce programme pour la vie qu'on trouve dans Matthieu 5 toute l'attitude contraire à une telle attitude de cœur, à de tels actes. Donc ce matin, je propose qu'on regarde juste quelques points de divergence entre la foi enseignée par Jésus et par les apôtres, et puis une telle idée du christianisme qui pourrait faire imaginer à quelqu'un qu'on puisse commettre des horreurs au nom de Jésus-Christ. Donc, premier point de divergence concerne justement la place des enfants dans le royaume de Dieu. Alors, il y a plus ou moins 5 ans, le président de l'Union européenne de l'époque, Donald Tusk, avait dit qu'il existait un coin spécial en enfer préparé pour les personnes comme moi, favorables au Brexit. Alors, heureusement, ma destinée éternelle n'est pas entre les mains du président Tusk, mais entre les mains de Jésus, qui lui est miséricordieux et me juge sur d'autres points de vue que mes opinions politiques. C'est ce qui rend encore plus grave le fait que Jésus, par contre, suggère qu'il existe effectivement un coin spécial de l'enfer préparé pour les personnes qui sont prennes aux enfants. En Matthieu chapitre 18, les 6 premiers versets, nous lisons qu'à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Verset 14. « De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Quand on regarde les paroles de Jésus, on se rend compte donc qu'il serait totalement impossible de s'en prendre aux enfants, soi-disant, au nom de Jésus. Puisque Jésus révèle cet amour particulier pour les enfants, parfois, malgré la vie de ses disciples. Marc chapitre 10, verset 13. On lui emmena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Parfois, les enfants sèment le désordre, n'est-ce pas? Ils ont tendance à faire du bruit, à ne pas rester à leur place calmement comme on le voudrait pour pouvoir traiter des choses sérieuses. C'est ce que trouvaient en tout cas les disciples. Mais Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc le royaume de Dieu est un lieu d'accueil particulier pour les enfants. Et cet amour que Jésus a révélé pour les enfants reflète finalement l'amour de Dieu pour les enfants que nous voyons tout au long de la révélation biblique. L'Ancien Testament, déjà, est rempli d'appels et de commandements à ne jamais profiter de d'autres statuts, d'autres forces pour abuser des vulnérables. Et il cite en particulier donc les veuves et les orphelins. Cet amour pour l'intérêt des enfants. Ce qui veut dire que donc tout abus d'enfants, que ce soit sexuel, physique ou psychique, n'a aucune place dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu et donc dans l'Église. Et si j'ose dire, y compris de la part de leurs parents. Certains parents traitent leurs enfants, après avoir fait des enfants, comme des inconvénients dans la vie qui les empêchent de vivre la vie qu'ils voudraient avoir. À ce moment-là, il y a une solution très facile. Ne pas en faire pour commencer. À partir du moment où on fait des enfants, on a la responsabilité d'assumer le fait d'élever ses enfants et d'en prendre soin. D'autres parents traitent leurs enfants comme si c'était leur propriété privée. Mais un enfant n'est pas la propriété de ses parents. Selon la Bible, un enfant est un cadeau de Dieu, une bénédiction donnée par Dieu, mais aussi une personne à part entière. Une personne qui porte l'image de Dieu en elle. Si l'Église est généralement contre l'avortement, ce n'est pas parce que l'Église est contre le droit des femmes ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est né de cette conviction qu'un enfant, à partir du moment de sa conception, devient un être humain à part entière, portant en lui l'image de Dieu. Mais, disons que là aussi, même si tel est notre avis, notre position, cela non plus n'est nullement une excuse pour que des chrétiens déversent soit de la violence physique ou verbale contre ceux qui seraient de notre avis. Mais donc le rôle d'un parent dans le royaume de Dieu, c'est d'apporter soin, d'apporter protection et surtout d'apporter l'amour, ce fondement d'amour dont tout enfant a besoin et a le droit de s'attendre dans la vie. Donc, nous avons ce défi d'être selon le modèle de notre Père qui est dans les cieux et de démontrer ce même intérêt, cette même bonté, cette même fidélité, ce même amour que nous recevons de sa part. Alors certes, la Bible nous montre que l'amour n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on ne veut jamais élever la voix, ni discipliner, ni enseigner comment vivre. D'ailleurs, la Bible nous dit tout le contraire. Que c'est si on n'aime pas qu'on ne discipline pas. Mais cela dit, la discipline non plus n'est nullement une excuse pour l'abus d'un enfant qui serait simplement le relâchement de la chair d'un parent exténué et non pas effectué dans l'intérêt de l'enfant. La Bible nous dit que toute discipline doit être faite comme Dieu fait avec nous, dans l'intérêt de la personne qui le reçoit, et non pas comme échappatoire pour la colère et la violence d'un parent. Le Seigneur a une opinion trop élevée, un intérêt trop élevé des enfants pour permettre et excuser cela. Dimanche dernier, si vous étiez là, John nous a parlé de l'émerveillement des anges en voyant l'œuvre de Dieu dans l'Église. à quel point les anges sont émerveillés de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans l'Église. Que ça reste là et que ces anges n'aient pas besoin de se plaindre des membres de l'Église, ces anges qui voient continuellement la face du Père et qui donc pourraient se plaindre du traitement que les enfants reçoivent, des personnes qui devraient au contraire émerveiller les anges par l'œuvre de Dieu dans leur vie. Donc, quand on regarde la place de l'enfant dans le royaume et dans le cœur de Dieu, on se rend bien compte qu'il est totalement impossible de s'en prendre aux enfants de cette manière au nom de Jésus-Christ. Et que donc, cet événement n'avait strictement rien à voir avec le christianisme. Et même plus largement, sans parler particulièrement du cas des enfants, on voit dans ce que la Bible nous enseigne sur l'établissement du royaume de Dieu, de la nature, du cœur du royaume de Dieu, que le royaume n'est nullement une excuse, qu'il n'existe aucune excuse pour commettre quelque acte violent que ce soit au nom de Jésus. Alors je sais que depuis toujours, l'Église a toujours débattu la justification d'une certaine violence commise par des chrétiens au nom de leur pays dans un service militaire, avec depuis toujours des avis divisés des deux côtés du débat. Mais ce qui est clair dans la Bible, c'est qu'il n'y a aucune justification de violence au nom d'établir le royaume de Dieu ou d'imposer une opinion soi-disant chrétienne. L'exemple et l'enseignement de Jésus nous montrent tout le contraire. On l'a vu dans Matthieu chapitre 5, on le voit également dans la réaction de Jésus lorsque, à Pâques, on l'emprisonne avant de le crucifier. Lorsque Jésus est arrêté en Jean chapitre 18 et traîné devant Pilate, nous voyons que Jésus, au lieu de vouloir à tout prix imposer son royaume et son règne, réagit avec l'humilité qu'il avait dépeint en Matthieu chapitre 5 lorsqu'il avait enseigné sur la montagne. Jean 18, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus explique à Pilate que pour le moment, il est hors question d'imposer son royaume sur ce monde par la force, parce qu'il dit « Mon royaume n'est point d'ici-bas ». Donc, la loi du plus fort, l'imposition d'une opinion par le plus fort est exclue de toute façon dans l'enseignement biblique, autant on a vu avec des personnes vulnérables qu'au niveau de l'État. Vouloir imposer la foi chrétienne ou une opinion chrétienne par la force serait de se tromper quant à la nature du royaume de Dieu et quant à la place du royaume de Dieu dans l'histoire. L'attitude de Jésus devant Pilate est d'ailleurs en contraste complet avec la réaction de Pierre lors de l'arrestation de Jésus. On le lit donc dans les versets 10 et 11 de Jean 18, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pierre, finalement, est toujours là pour nous dévoiler des réactions tout à fait humaines devant des situations. Si c'est en marchant sur les eaux, si c'est aussi le jour où Jésus l'emmène à le reconnaître en tant que Christ. La Bible nous dit que lorsque Jésus commence à enseigner à ses disciples que dans le plan de Dieu pour que son royaume se réalise, il allait falloir qu'il souffre et qu'il soit livré aux Romains et qu'il soit crucifié, quelle était la réaction humaine de Pierre? Oh ben certainement pas, Seigneur. On ne permettra pas que tu souffres de la sorte. On ne permettra pas que tu sois livré aux Romains pour être crucifié. Quelle était ce jour-là la réaction de Jésus? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont nullement des pensées de Dieu. Ce sont des pensées tout à fait humaines, charnelles. C'est une réaction de ta chair devant cette idée de me voir souffrir. Mais ce n'est nullement le plan de Dieu pour moi. Est-ce que je ne dois pas boire la coupe que le Père m'a donnée à boire? Parce que ce jour-là, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre n'avait toujours pas compris. On imaginerait que, recevant de la part de Jésus la réplique « Mais arrière de moi Satan !» que ça aurait été suffisamment fort pour comprendre. Mais finalement, on voit que la chair de Pierre réagit à nouveau devant le fait. En voyant Jésus arrêté, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à nouveau « Ah ben certainement pas Seigneur, on ne va pas permettre à ce qu'on fait ça à toi. » Et donc il prend son épée pour se battre au nom de Jésus, pour imposer le règne de Jésus. Mais c'est intéressant de voir dans Matthieu chapitre 26 pourquoi Jésus, lui par contre, est tellement humble et refuse cette option de se battre. Comme on avait vu un peu plus loin lorsque Jésus parle avec Pilate et dit à Pilate, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient battu pour moi. » En Matthieu 26, lorsque Matthieu nous relate l'histoire de l'arrestation de Jésus, il nous donne un élément de plus dans la réponse de Jésus à Pierre lorsque Pierre sort son épée pour imposer son idée, pour empêcher Jésus d'être arrêté. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place. » Donc premièrement, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mais deuxièmement, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Jésus dit à Pierre, « Mais si c'est ma volonté, si c'est le plan du Père, je n'ai pas besoin de ton petit épée à toi. Je peux faire appel à 12 légions d'anges à venir à la rescousse. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Je n'ai pas besoin que tu te battes pour imposer mon règne par la force, pour me faire reconnaître comme Messie par l'épée, parce que mon royaume n'est point d'ici-bas. Il faut que les Écritures s'accomplissent. » Cela reste pareil aujourd'hui. Il faut que les Écritures s'accomplissent qui nous disent que le royaume de Dieu sera imposé sur la terre, non pas au moment de l'arrestation de Jésus, non pas au moment de Pâques, non pas au moment des apôtres, non pas non plus aujourd'hui, mais le jour où Jésus-Christ reviendra auprès du Père avec ces légions d'anges. À ce moment-là, le royaume remplira toute la terre, le Seigneur Jésus sera reconnu, tout genou pliera devant lui, et toute langue reconnaîtra qu'il est Seigneur. Dieu ne demande nullement à l'Église d'imposer le royaume de Dieu sur la terre par force en attendant le retour de Christ. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Pour le moment, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il faut que ce royaume descende des cieux. Car il faut que les Écritures s'accomplissent d'après lesquelles il doit en être ainsi. Le rôle de l'Église, c'est simplement d'annoncer l'Évangile, d'annoncer que Jésus est le Messie, d'annoncer que Jésus-Christ offre le salut à quiconque invoque son nom, non pas par force, mais pour être sauvé par la grâce de celui qui a souffert sur la croix pour nous, qui nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu dans un monde de ténèbres, de vivre le royaume de Dieu et le règne de Dieu dans un monde de ténèbres, non pas de l'imposer sur un monde de ténèbres. Nous sommes appelés à le révéler à tous ceux qui veulent, en attendant le retour de Jésus, qui lui fera son affaire d'imposer son règne. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est le jour où Jésus reviendra du ciel dans la gloire de Dieu avec les armées d'anges, que là, il imposera son règne. Jusque-là, ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre place. Il ne nous demande pas d'imposer quelconque règne du Seigneur par la force sur le monde sous la loi du plus fort. Nous ne sommes donc pas appelés à conquérir des nations au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plutôt appelés actuellement, en attendant le retour de Jésus, à conquérir le péché qui domine en nous, à conquérir notre chair, en priant, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne d'abord dans ma vie. S'il y a un endroit où nous sommes appelés à imposer le règne de Dieu, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est dans nos propres pensées, c'est dans notre cœur, c'est dans notre comportement. Ce n'est pas auprès de quelqu'un d'autre ou auprès des nations. Que ton règne vienne dans ma vie. Et puis, au moment que le Père aura choisi, que ton règne vienne sur la terre. Notre prière doit être plutôt que ton règne vienne sur la terre actuellement, dans le sens où, à travers le partage de l'Évangile, à travers cette puissance de Dieu qui est active dans l'Évangile, que son règne vienne à travers d'autres vies transformées à son image. Mais non pas par un règne politique imposé sur les autres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais la lumière de Dieu doit effectuer son œuvre en nous et briller à travers nous pour attirer des gens vers la lumière et non pas pour imposer cette lumière sur le monde. Ça, c'est pour plus tard dans l'histoire. Donc là non plus, le royaume de Dieu, notre prière, que ton règne vienne, n'est nullement une excuse pour commettre une violence quelconque au nom de Jésus. On pourrait regarder beaucoup d'autres points de divergence qui nous montreraient clairement que de tels actes, de telles attitudes sont loin du royaume de Dieu, n'ont strictement rien à voir avec le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, par exemple, « Vous ne prendrez pas le nom de votre Dieu en vain. » Employer le nom de Dieu en vain n'est pas limité qu'à des grossièretés, mais ça veut dire faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire au nom de Jésus-Christ. D'employer son nom en disant « Ah ben Dieu m'a dit de te dire !» Comme ça, tu n'as rien à me dire lorsque, en fait, c'est moi qui veux te dire. Mais tu pourrais te disputer avec moi, tu oseras un peu moins si je te dis que c'est Dieu qui a dit ceci. Si Dieu ne nous a pas dit, alors on prend effectivement le nom du Seigneur en main. Faire quoi que ce soit au nom du Seigneur, quand lui ne nous l'a pas dit, ce serait employer son nom en main. Donc, clairement, s'attaquer à des enfants dans un parc au nom de Jésus-Christ, c'est prendre son nom en vain. Puisque nous voyons dans sa parole que lui ne demanderait jamais ça, bien au contraire. Donc je pense que même si on pourrait prendre beaucoup d'autres points, ces deux sont déjà bien suffisants pour nous montrer que de tels comportements, de telles attitudes de cœur sont complètement contraires à la nature du royaume de Dieu, au cœur de la foi chrétienne, au cœur de Dieu lui-même, qui lui nous révèle tout le contraire. Que nous donc, nous puissions non pas prendre le nom du Seigneur en vain, mais que nous puissions porter dignement le nom du Seigneur en mettant en pratique les choses qui sont chères à son cœur, les choses qui sont les caractéristiques de son royaume. Et qu'avant tout, nous puissions prendre notre responsabilité personnelle et les imposer sur notre propre vie. Et ainsi vivre le royaume de Dieu dans ce monde de ténèbres où il nous a placés.